On parle beaucoup du bonheur, mais la plupart du temps, quand tu demandes aux gens ce que c'est le bonheur pour eux, ils te répondent complètement à côté.
T'as craqué, entre guillemets, le code de ton mental.
Qu'à partir du moment où tu sautes, tu vas trouver un filet. Ce sera peut-être pas le filet que tu souhaites, mais tu vas en trouver un.
Chris Marquez, connu du grand public comme juré de Danse avec les Stars.
Chris Marquez.
Et surtout un metteur en scène et directeur artistique reconnu des pros.
Vous êtes dans le spectacle Alors on danse de Chris Marquez.
Comment a-t-il dépassé la maladie et les obstacles pour réussir?
Quand vous étiez petit, vous avez été harcelé longuement à l'école.
Ce champion du monde de salsa se confie dans Unique.
Je suis né dans une famille ultra modeste.
C'est un bel espoir pour la plupart des gens qui veulent grandir dans un domaine.
Je pars du principe que tout peut s'apprendre. Il n'y a aucune raison, en fin de compte, qu'on prenne 2-3 ans pour apprendre les choses. J'ai envie de dire que 80% d'un sujet peut s'apprendre très très rapidement.
Par modélisation, on peut y arriver.
C'est vrai qu'il y a eu des petits moments un petit peu moins confortables. À un moment donné, je tombe malade, mon cerveau commence à me jouer des tours.
Tu vas voir le médecin,
ouais.
Tu te retrouves face à lui et il te dit...
C'est le sida. Fais attention, oui, n'en aie pas peur, et si besoin, passe au-dessus.
Et t'as dépassé tout ça.
C'est pas parce que d'un coup on est audacieux qu'on est fou pour autant. Quand on vient de là où je viens, on ne peut pas accéder au plus haut échelon. C'était une des premières croyances limitantes que j'ai éclatées très rapidement.
En sachant que la question, c'est pas le comment, c'est quoi et vraiment pourquoi.
C'est intéressant ça. C'est le truc absolument sur lequel je travaille tout le temps en ce moment.
Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader. Pour un monde meilleur.
Salut, c'est Chris Marquez avec Franck Nicolas.
Salut Chris.
Ça va?
Très très bien, mais je vais aller encore mieux parce que si tu savais comme j'ai faim de questions.
Bah, très
j'ai
bien.
Tellement faim de questions. Cet homme est une légende. Et, non mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Vous allez voir l'entrevue, ça va être un truc de fou. Il est tellement adorable en plus. On aimerait le croquer tellement c'est de la gentillesse pure et de l'expertise incroyable. C'est un metteur en scène de fou et puis un homme de télé. Depuis que, combien d'années finalement maintenant?
Moi j'ai commencé en télévision, mais j'ai commencé en Angleterre en 2003.
À la BBC hein.
Ouais, à la BBC exactement, en 2003. Donc ça fait 20 ans.
Puis ensuite la France, ça c'était 2011.
2011 exactement, 2011. Pour Danser avec les Stars.
Donc
et
là,
depuis, je suis là.
Ouais. Là t'es vraiment dans le paysage, avec beaucoup d'affect de la plupart des gens. D'où ça vient cet affect à ton égard?
Je sais pas, mais moi j'aime bien les gens. Et ouais, je pense qu'à un moment donné, ça va dans les deux sens. C'est vrai que j'ai une relation qui est ultra sympa avec les gens dans la rue, parce que les gens viennent me voir comme si je faisais un peu partie de la famille. Et ce, dans toute la France.
Et tu te forces pas là-dedans? C'est toi?
Non. Mais pourtant, je suis intimide.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est particulier.
C'est vrai.
Donc, voilà.
C'est-à-dire que t'aimes les gens et ça t'amène à dépasser ta timidité.
Exactement.
Ouais.
Ça la simplifie.
Metteur en scène aujourd'hui tech, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu nous parlais un petit peu de cette activité qui est finalement la principale, les gens, tu danses plus?
Bah, je danse plus depuis presque 15 ans au moins.
Bah oui, oui. Les gens ne le savent pas ça.
Ouais, mais en fait, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est qu'au départ, par exemple sur Danse avec les Stars, j'en étais le directeur artistique de l'émission. Et donc, j'ai apporté un petit peu toutes les innovations technologiques, que ce soit ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire la projection avec des éléments de 3 dimensions, que ce soit également tous les éléments de format qui étaient un petit peu particuliers. Par exemple, à un moment donné, on a été une des premières émissions au monde à faire ce qu'on appelle des plans séquences, c'est-à-dire faire un tableau entier avec une seule caméra. Ça se fait normalement au cinéma, mais ça se fait pas normalement en télévision. Et donc, toutes ces choses, j'ai eu la chance de pouvoir les apporter en télévision.
Alors, finalement, la tech de ce type de plateau, c'est toi qui l'as amené et les gens ne le savent pas?
Ma force, c'est justement de prendre des technologies disparates, des choses qui ne sont pas censées aller les unes avec les autres et de les faire fonctionner. C'est simplement le fait de, par exemple, dire, vous savez, on a un truquiste sur un plateau télé. Ce truquiste, la plupart du temps, tout ce qu'il fait, c'est les scores. Moi, j'ai intégré le truquiste à l'équipe artistique et je lui ai dit, tu vas commencer à balancer des éléments qui sont en 3D avec des zones transparentes à travers laquelle on va voir le plateau et tout ça en fait avec une position très spécifique de caméra, ce qui va nous donner l'impression d'avoir des éléments 3D qui viennent en fait vers le téléspectateur. Et donc tout ça, c'est là l'innovation, c'est de savoir en fait mélanger des choses qui ne sont pas censées être mélangées.
On va essayer de remonter, de savoir comment... On va essayer de savoir comment le petit bonhomme...
Stylé déjà.
Et super stylé d'ailleurs, je trouve. C'est vrai. Attendez, les copains, vous avez pas filmé les chaussures des Chris. Je veux les mêmes pour Noël. Mais je déconne pas, je veux les mêmes. mais Chris, ouais. Qui était le petit Chris? Il est né dans quelle famille? Une famille méga riche ou méga classe populaire?
Non. Moi, je suis né dans une famille ultra modeste, immigrée, parce que papa est portugais, maman est espagnole. Ils sont venus un petit peu pour quitter les dictatures qui étaient en Espagne au Portugal, Franco et Saint-Lazare au Portugal. Et donc, ils sont arrivés en France et ils ont trouvé un pays d'accueil formidable. Et c'est vrai que, voilà, leurs enfants sont nés en France. Mmh. Moi, j'ai la chance de me sentir français. Je suis très content, mais je n'oublie pas mes origines non plus. Mmh. Mais c'était une famille modeste. Ils travaillaient à l'usine. Maman était femme de ménage. Et donc, c'était... ouais.
C'était une mère espagnole fan de flamenco ?
Ouais, tout à fait. Ouais, elle aimait bien le flamenco. Et papa qui, d'ailleurs, lui, chantait dans les bals populaires parce que vraiment, il avait une formation. Il avait une voix absolument dingue. Et il chantait un style de musique portugaise qui s'appelle le fado. Et donc, c'est un type de musique qui est très mélancolique.
Ça donne quoi,
qui est très fort.
Déjà, si on
chante. Impossible.
Chantait,
ouais, impossible.
Ouais, c'est super dur.
C'est très important pour tes auditeurs que je ne chante pas.
Oui, oui.
Parce que sinon, tu n'en auras plus, des auditeurs.
Oui, j'ai tendance à dire la même chose pour moi. Mais finalement, c'est une enfance quand même pas si facile. C'est-à-dire qu'il y avait des moments à l'école, c'est pas évident. On t'appelait quoi, merguez, peut-être aussi.
Ouais, mais tu sais, en fait, on s'en rend pas. Moi, mon souvenir n'est pas d'avoir eu une enfance difficile. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai eu une enfance géniale avec des moments où il a fallu apprendre comment se défendre. Mais autrement, j'ai pas eu une enfance difficile. Moi, j'ai eu une enfance absolument géniale. Mes parents m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient me donner. Donc, à aucun moment, je peux me dire oh, « c'était dur ». Non. Mes parents ont travaillé d'arrache-pied pour que justement, à la maison, on ne manquait de rien. Et je vais même aller plus loin. J'ai une petite anecdote sur ça. J'ai toujours cru que j'arrivais pas à m'imaginer ce que mes parents avaient dans leur compte en banque. Et donc, j'ai toujours cru qu'en fait, mes parents, ils avaient au moins 1 million, 2 millions, 3 millions de francs dans leur compte en banque à l'époque. Parce
qu'ils ont tout fait pour pas.
Comme il y en avait tout le temps, c'était pas possible en fait qu'à un moment donné, il n'y ait pas assez d'argent dans le compte, étant donné qu'on en avait.
Donc, tu n'as pas ressenti d'insécurité, c'est ça que je veux dire en fait. Oui, c'est ça.
Non.
Mais à la fois, la maman qui aime bien le flamenco, une petite touche artistique, papa qui chante dans un groupe.
Ouais.
Là déjà, on voit de belles fondations. Ouais. Donc finalement, à 14 ans, tu débutes la danse.
Oui.
Mais ça arrive comment, ça, je débute la danse?
C'est très tard, hein, parce que pour un danseur, normalement, c'est tard. En fait, moi, je débute la danse uniquement parce que je voulais rencontrer des filles.
Ah non, donc tu dis, c'est une porte d'entrée, c'est un cheval de Troie.
Ah, on va pas se mentir, à un moment donné, tous les moyens sont bons quand t'as 12-13 ans. Et donc, mon petit frère et ma petite sœur, qui, eux, dansaient déjà, étaient déjà champions de France, etc. Et je me rendais compte que mon petit frère, qui avait 4 ans de moins que moi, était toujours entouré de filles. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah attends. C'est peut-être le bon plan.
Et donc là, tu pars à Lyon.
Alors, pas tout de suite.
Ah, pas tout de suite.
D'accord. Je prends un cours de danse. Il se trouve qu'après une demi-heure, il y a un déclic, il y a un truc magique qui se passe. Et tout d'un coup, je passe de ne jamais danser à tout d'un coup danser 4 à 5 heures par jour. Non-stop, tous les jours. 6 semaines plus tard, je suis en finale d'un des plus grands championnats.
Tu gagnes tous les tournois.
Je commence à devenir champion de France. 6 mois plus tard, je suis champion de France. Et je suis champion de France dans ma catégorie d'âge quasiment toutes les années. Jusqu'à l'âge de 17-18 ans.
3 fois champion du monde de danse de salsa, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais.
Et puis le palmarès, on ne s'arrêterait pas. Mais tu étais dans ton, comment on dit, dans ton X, dans le don sacré qu'on t'avait donné, tu as su l'exploiter? Ou c'est un mélange de dons et puis aussi d'enfance, de patrimoine génétique, d'une famille artistique et de beaucoup de travail?
Je pense que de tout ça, il y avait peut-être quelques facilités, certes. J'adorais la musique, je la comprenais par cœur, je pouvais écouter une chanson et la comprendre très rapidement et comprendre sa structure, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fin de compte, moi, ce qui m'a toujours différencié, ça a été le travail. Mes parents, justement, ne pouvaient pas me payer des cours de danse. Donc, j'allais à l'école de danse.
Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent.
Il n'y avait pas assez d'argent.
Mais tu ne le savais pas.
Voilà. Mais il me faisait quand même comprendre que voilà, t'es déjà à l'école de danse, c'est-à-dire que tu peux aller t'entraîner, tu peux prendre les cours, on va dire, de groupe, d'ensemble. Mais nous, pour nous améliorer à notre niveau, c'était des cours particuliers qu'il fallait. Bon, ça, je pouvais pas en avoir. Donc, j'apprenais comment ? J'apprenais en prenant des VHS. Et dès qu'il y avait un moment de danse dans un film, je le décortiquais. Donc, Barishnikov dans White Nights, il tourne 13 fois sur un pied. Moi, cette vidéo, en fait, elle n'a pas fait long feu, étant donné que je l'ai rembobinée peut-être 2000, 3000 fois pour apprendre exactement à comprendre. où se positionnait la tête et pourquoi ça fonctionnait et pourquoi il arrivait à en faire 3 et 4 et 12 et 13. Et donc, j'ai appris littéralement à danser sur des vidéos.
Par mimétisme.
Tout à fait.
Ah oui. Donc, ça veut dire que c'est un bel espoir pour la plupart des gens qui veulent grandir dans un domaine. Ça veut dire que par modélisation de ce qui se passe, même si on n'est pas le gosse qui peut se payer un prof privé, on peut y arriver.
Je pars du principe que tout peut s'apprendre. Et tout peut s'apprendre quasiment rapidement. Il n'y a aucune raison, en fin de compte, qu'on prenne 2-3 ans pour apprendre les choses. J'ai envie de dire que 80% d'un sujet peut s'apprendre très très rapidement. Moi, ça m'a servi dans d'autres domaines que la danse.
On est dans les 10 000 heures de travail
Toujours.
Oui, c'est ça.
Toujours. Ouais. Mais les 10 000 heures, on peut... Il y a aussi des shortcuts. Il y a aussi des façons, en fin de compte, d'acquérir cette expérience plus rapidement. Par exemple, moi, je crois énormément au chunking. C'est-à-dire réussir à prendre un sujet, comprendre très rapidement, en fin de compte, quels sont les éléments majeurs de ce sujet, quels sont les éléments en fait, qui font la différence dans 80% des cas, et donc apprendre cela d'abord, comprendre la structure générale du sujet pour ensuite pouvoir très rapidement partir dans des directions différentes à partir de là. Et donc, moi, c'est vrai que les sujets ne me font pas peur en général, que ce soit la danse physique ou que ce soit apprendre à coder en 3 semaines ou devenir directeur de commerce électronique dans une...
Donc finalement, t'as craqué entre guillemets le code de ton mental pour lui faire accomplir un objectif que tu t'es fixé et il t'en déroge pas.
Oui, parce que comme j'avais décidé de ne pas aller à l'université, comme j'avais décidé d'aller après mes rêves très rapidement, je savais que l'information, knowledge is power. L'information,
c'est le pouvoir.
Voilà. Ouais. Et donc, à partir de là, il faut savoir en fait l'ingérer et la digérer, cette information.
Ouais.
Et donc, pour moi, ça, c'était l'élément capital qu'il fallait absolument que j'aie avec moi tout le temps. Donc, oui, comprendre tout ce qui est croyances limitantes, s'en rendre compte pour justement pouvoir passer outre.
Quelles étaient les tiennes ?
Bizarrement, au départ, c'était le fait que quand on vient de là où je viens, une petite ville, on ne peut pas normalement accéder au plus haut échelon de la société. Ça, c'était une des premières croyances limitantes que j'ai éclatées très rapidement parce qu'en fin de compte, je la retrouvais là trop souvent. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, il faut s'en débarrasser pour passer à autre chose.
Qu'est-ce qu'on t'a dit dans ton enfance qui a pu injecter aussi d'autres croyances limitantes ?
Il ne faut pas oublier que mes parents, qui travaillaient à l'usine, étaient dans un mode de vie qui était un mode, d'une part, de survie et de sécurité. Il faut toujours essayer d'être dans la survie, dans la sécurité. Il faut faire attention, attention, attention. Il faut avoir peur de la hiérarchie également. Il faut avoir peur de tout ce qui... Parce que potentiellement, ils ont un impact sur ta vie de tous les jours. Sauf qu'en fait, pour moi, ça ne s'appliquait pas à ça après. Justement, moi, il fallait que je trouve un moyen de ne pas avoir peur de cette hiérarchie, mais en revanche, de la comprendre. De comprendre quels sont leurs besoins, de comprendre comment ça fonctionne. Et bien, une de ces croyances limitantes, c'était justement, voilà, surtout, fais attention à ce que te disent les gens qui sont au-dessus de toi. Fais attention, oui, comprends les oui, n'en aie pas peur, et si besoin, passe au-dessus.
Et t'allais passer tout ça.
Alors bon, je dirais pas que c'est parfait, mais...
C'est jamais fini.
Exactement.
Et un petit peu plus tard, donc là, c'est direction Londres.
Exactement, ouais. C'est là où se trouvaient les meilleurs chorégraphes, les meilleurs coachs, les meilleurs artistes à l'époque.
C'est vraiment... audacieux, hein, entre guillemets, le gars d'origine portugaise. Bon, déjà à Lyon, ça cartonne bien quand même. Ouais. Et Londres, tiens, je vais à Londres.
Surtout que je parlais pas l'anglais.
Non, c'est vrai.
Ah ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est comme je parlais 3 langues déjà, je m'étais jamais posé la question.
Mais t'es à Londres, t'as quel âge et tu dors où? Tu vis de quoi? Tu es serveur dans un restaurant? Tu fais quoi?
Là, j'ai 18 ans, je fais tous les petits boulots habituels, mais le problème, c'est qu'au départ, le problème de la langue, en fait, m'empêche de faire tout ce qui demande un peu de communication, un peu d'interaction. Je ne peux pas le faire. Donc, littéralement, je nettoie les toilettes dans les fast-foods. Je fais tout ce que je peux faire. Je suis même bûcheron à un moment donné.
Bûcheron en Angleterre, ça ne s'invente pas.
Je faisais que les petites branches. Toutes petites branches. Mais c'est vrai que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire pour justement me permettre d'aller répéter, d'aller m'entraîner, d'aller travailler. Parce que bon, tout ça n'était que prétexte à danser.
Bien sûr.
Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des petits moments un petit peu moins confortables, où effectivement, j'avais ni boulot, ni où dormir. Mais bon, ça faisait partie de l'aventure.
Vous savez que quand je vous dis souvent, il faut absolument sortir de la tyrannie du comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, le plus important, c'est ce que vous voulez, le quoi. Et ensuite, le pourquoi vous voulez. Et dans l'histoire qu'on est en train de découvrir, celle de Chris, le comment, il n'en savait rien. Mais il savait quoi, la danse, et aussi pourquoi il le voulait. Et ensuite, le comment, il l'a trouvé petit à petit. T'es d'accord avec ça?
Absolument, ouais. Le comment, ça a toujours été... Le comment, de toute façon, moi j'ai un dicton, enfin c'est pas un dicton, c'est une phrase que j'aime bien utiliser qui devient un petit peu mon leitmotiv à nouveau, c'est « jump and the net will appear ». Donc à partir du moment où tu sautes, tu vas trouver un filet. Ce sera peut-être pas le filet que tu souhaites, mais tu vas en trouver un.
Exactement.
Et donc pour moi c'était important de pas trop me poser de questions. Le comment deviendra apparent une fois que tu en as besoin.
Et pourtant, à la base, c'est pas une poule sans tête. Il est stratège, il a fait des études de psychologie, de business. Donc, c'est un gars quand même assez rationnel, assez cadré quand même. Donc, comment tu as fait pour dépasser ce côté psychologie, business, cadré, une tête bien faite, on va dire, réfléchi. Et puis, on verra bien.
C'est pas parce que tout d'un coup, on est audacieux qu'on est fou pour autant. J'avais un avantage, c'est que je savais que papa et maman en France avaient une maison et avaient un toit. Donc au D'accord. pire, j'avais 800 km à faire et je savais que j'avais une maison. Et je savais qu'à un moment donné, je pourrais dormir quelque part un jour. Mais le fait d'avoir cette petite sécurité, même si elle n'était pas à côté, elle était un petit peu loin, cette petite sécurité me suffisait pour aller de l'avant alors que tout était justement pas sécur autour de moi, là où j'étais.
Et puis il y avait un petit obstacle, ou grand, j'en sais rien, tu vas me le dire, c'est la timidité.
Ouais.
T'es un gars timide à l'origine.
Ouais.
Aujourd'hui, comment ça se passe?
Je pense que je le serai toujours timide. Ça se manifeste de façon étrange. C'est-à-dire que, imaginons que tu m'invites à une soirée.
Oui.
Tu m'invites à une soirée.
D'ailleurs, ce soir.
Mais tu m'invites à une soirée, mais en revanche, tu m'invites vraiment juste pour passer une bonne soirée. Mais je n'ai aucune fonction dans cette soirée. Je n'ai pas de travail. Je n'ai rien à faire dans cette soirée.
Et on ne sait pas qui
je suis. Là, voilà, et je suis là que pour, même si on sait qui je suis, et je suis là que pour kiffer. Bah, tu vas me retrouver au coin d'une pièce, en train d'observer tout le reste de la pièce, et je serai peut-être même l'un des premiers à partir aussi. Parce que
Encore aujourd'hui,
parce que le chit-chat, la petite conversation, je ne sais pas le faire, j'ai du mal à l'aborder. En revanche, tu me demandes de venir à la même soirée et tu me dis « Chris, j'ai un problème. Il n'y a pas assez d'énergie dans cette soirée. Il faut que tu me les réveilles. Je vais sauter sur scène et je vais te réveiller ton public en 30 secondes. » Et est-ce que j'ai une mission ou pas? Et si j'ai cette mission, elle dépasse tout. Et si je n'ai pas de mission, bah, la timidité reprend un peu le pas.
Il y a eu ce petit obstacle-là, cette timidité que tu as réussi, on peut dire, apprivoiser.
Ouais.
Mais il y a aussi eu, alors là c'est un plus gros obstacle, c'est qu'il y a eu la maladie aussi, la fibromyalgie.
Ouais.
On peut en savoir un petit peu plus?
Ouais, en fait, à un moment donné, je tombe malade et cette maladie qui ressemble bizarrement à une espèce de grippe, un petit peu plus puissante que de la grippe, mais qui dure une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, me quitte pas vraiment. Et le problème c'est que je suis vraiment très crevé, je suis vraiment, vraiment fatigué. Et je commence à sentir en fait des choses qui changent un petit peu en moi, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'être quand même assez rapide. Je percute très vite, on peut me mettre dans n'importe quelle situation avec n'importe qui et je sais que voilà, très rapidement je vais comprendre. Sauf que là, tout d'un coup, mon cerveau commence à me jouer des tours. Il y a une espèce de brouillard, il y a une espèce de... Je suis un petit peu plus lent que d'habitude et je sais que je suis plus lent que d'habitude et j'ai l'impression de m'observer un petit peu de
l'extérieur. Là, tu as quel âge, là, on dit?
J'ai 20 ans, 21 ans.
20 ans, 21 ans, ouais.
Et là, tout d'un coup...
Donc là, t'es en Angleterre.
Ouais, je suis en Angleterre, ouais. Et donc, au départ, je ne le dis pas à mes parents. Je suis déjà avec mon épouse. On se connaît depuis qu'on a 18 ans. Et c'est bizarre, en fait. Je suis fatigué, j'ai un peu mal partout. J'ai cette grippe qui ne me lâche pas. On me file antibiotique sur antibiotique et ça dure 3 semaines, mais un mois. Je suis en rémission, mal partout. Le problème mental tout de même qui est quand même assez important pour moi parce que justement, Je dépends énormément de cette faculté à voir le jeu, à voir le play, à voir où aller. Là, tout d'un coup, je vois plus ce qui se passe, en fait. C'est vraiment, je deviens très témoin de ma vie, tu vois. Et donc, je vois des médecins, et ça dure un an, ça dure deux ans, ça dure trois ans. Et en fait, à un moment donné, c'est vrai que je me dis, bah, je vais jamais m'en débarrasser, en fait.
Wow. Et là,
et on ne sait pas ce que c'était à l'époque.
Le moral, il est comment ?
Chez moi, comme d'habitude, tout est un peu contradictoire. C'est-à-dire que la plupart de mes amis n'étaient pas au courant. Ils ne le savaient pas. Avec mon épouse, on refusait d'en parler avec les copains, notre entourage, etc. Parce qu'en fait, on se disait, à partir du moment où on en parle, les gens vont décider pour nous de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire. Et comme à l'époque, on avait encore des envies de faire de la compétition, on avait encore des envies d'être en haut de l'affiche, de créer des spectacles, on avait envie encore de faire toutes ces choses-là, on ne voulait pas donner l'opportunité au milieu de choisir pour nous ce qu'on allait pouvoir faire ou pas. Donc on ne voulait pas être malade.
Non. Et un jour, tu vas voir un médecin et qui t'annonce quelque chose qui te met à terre.
Bah, c'est vrai que j'avais tellement l'habitude de voir le médecin, parce que bon, bah, c'était littéralement toutes les trois semaines, il fallait que j'aille le voir, parce que bon, il me fallait quelque chose. Et un jour, effectivement, après je pense 2-3 ans, il me dit, écoutez, je pense que je sais ce que vous avez. Vous avez un cancer de Hodgkin's. Alors là, lymphome de Hodgkin's, je dis, je sais même pas ce que c'est. Il me dit, oh, bah, c'est, ça a à voir avec la glande thyroïde, etc. Ok, d'accord. Mais vous vous basez sur quoi, sur ça ? Non, non, mais c'est une intuition, mais je pense que j'ai raison. Je vais faire des tests. Je suis un petit peu déjà dépité, on va pas se mentir, mais je vais faire des tests. Il se trouve que j'ai rien du tout. J'ai rien. Je n'ai pas du tout le lymphome de Hodgkin's. Et au retour, deuxième rendez-vous, là, en fait, il commence à re-regarder toute mon histoire, etc., tout mon historique. Et là, il me dit, mais vous êtes... J'avais pas vu, vous êtes danseur. Ouais. Ah. C'est le sida.
Donc, pour résumer le truc,
ouais.
Là, tu vas voir le médecin,
ouais.
Tu te retrouves face à lui et il te dit...
Sida.
On te dit, tu as le sida.
Ouais. Et il me le dit de façon très catégorique. Et je suis tout seul. Et j'ai 21 ans. Et il fait un espèce de bond qui me paraît complètement débile. Mais il me dit, non, non, mais en fait, vos symptômes, c'est bon. Ça va être ça.
Et là, tu lui dis, ça va être quoi ?
Et il me répète, sida. Et donc, il me le... Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Donc là, tu apprends officiellement que t'as le sida.
Alors, paraît-il. Sauf qu'en fait, je lui dis, mais il n'y a pas des tests à faire avant de... Si, si, mais c'est bon, je sais déjà ce qui va revenir. Sauf que là, je pars. Là, pour le coup, ça m'a mis un petit coup au moral quand même. Parce qu'à l'époque, le sida n'était pas vraiment... On ne le traitait pas. Et là, je reviens deux jours plus tard. Je n'ai absolument pas le sida. Et donc là, je suis un petit peu fâché. Je suis un petit peu fâché parce qu'en fait, quand je dis fatigue, ce n'est pas juste fatigue. Hein. C'est une fatigue qui vous terrasse. C'est une fatigue
lock.
Vous avez... Il y a des matins, vous vous levez, vous avez l'énergie pour prendre une douche ou boire un café, mais pas les deux ce jour-là. Et il y a des jours où vous allez prendre votre douche et la force de l'impact de l'eau sur votre peau va vous faire tellement mal qu'en fait, vous éteignez tout
de
suite.
La force de l'impact de l'eau sur ton épiderme, ça te faisait mal ?
Ouais. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand on va voir le médecin à ce moment-là, il me met un premier coup en lymphome de Hodgkin's. Ça me fait déjà peur, je ne savais pas ce que c'était. Mais ce n'est pas ça, d'accord. Deux jours plus tard, bam, il me remet, c'est le sida. Et là, pour le coup, le sida, je sais ce que c'est. Et je savais que c'était très dangereux à cette époque-là. Et là, je me suis dit, OK. Et là, en fait, bah, j'étais un gamin de 21-22 ans qui, en fait, se prenait deux, trois coups d'affilée. Et j'avais du mal à l'encaisser à ce moment-là. Sauf que je n'ai ni lymphome de Hodgkin's, ni sida. Et je décide en fait d'une part de quitter ce médecin parce que
ça commence à faire beaucoup,
c'était compliqué.
Oui, oui.
Je tombe sur un autre médecin, un petit peu plus jeune. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'un mois plus tard, il me dit, écoute, j'ai refait ton historique. Je reviens d'un congrès où on a parlé d'une maladie et je crois que, pour le coup, je crois que c'est ce que tu as. Ça s'appelle le syndrome de fatigue chronique, la myoencéphalite myalgique. Et il me dit, ça a l'air de vraiment correspondre. Et effectivement, là, pour le coup, je commence à me rendre compte que tous les symptômes collent, que voilà, tout est cohérent sur ça. Sauf qu'il n'y a pas de traitement. Et donc, que c'est du pas à pas et qu'il va juste, en fait, m'accompagner petit à petit. Mais au moins, là, je savais ce que c'était.
Mais avec le temps, pour faire une histoire plus courte, avec le temps, tu as réussi à dompter cette maladie.
Je l'ai eu pendant 10 ans. À l'époque, j'étais chorégraphe avec mon épouse de la version anglaise de Danse avec les Stars. Un des artistes, qui était ex-champion du monde de rugby, qui un jour nous dit, à l'issue d'une répète, nous dit à mon épouse et moi, « Mais je comprends pas, pourquoi vous n'êtes pas danseur pro sur l'émission ? Vous êtes super, vous dansez super bien. » Et c'est la première fois où j'admets à quelqu'un autre que ma famille, et ça sort. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là ça sort, je lui dis bah, « Écoute, en fait, je peux pas. » Je peux pas parce qu'en fait, voilà, tu vois, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui, mais là, pendant 3 semaines, je vais le payer, je vais plus pouvoir bouger, je vais avoir mal partout. Et il me dit, mais attends, mais c'est quoi ta maladie ? Et donc, je lui dis, et il me dit, bah écoute, je vais peut-être changer ta vie aujourd'hui. Il me dit, je te parle tout à l'heure. On se retrouve 1 heure plus tard, il me dit, écoute, ma femme a cette maladie également. Il me dit, j'ai dépensé des fortunes pour qu'on essaie de lui trouver une solution. On n'a rien trouvé et on a essayé quelque chose à Londres. C'était le dernier truc qu'on allait essayer. Ils lui ont même fait des lavages complets de sang en Allemagne, etc. Ça, rien n'avait fonctionné. Et il dit, le dernier truc, on s'est dit, bon, bah, écoute, on va essayer, c'est ici à Londres, autant le faire. C'est un mec qui avait développé un process, ça s'appelle The Lightning Process. Et c'est en fait un mélange d'auto-hypnose, d'ostéopathie, de PNL, NLP, et plein de techniques, en fait, qui rentrent en jeu pour justement... réapprendre à dompter ton corps. La réalité, c'est qu'en fait, il y avait des décharges d'adrénaline qui étaient bien trop élevées, trop fréquentes, etc. Et donc, pendant les 3 jours où le traitement, tu dois apprendre, en fait, à reconnecter, en fait, ta glande adrénale, arrêter de la faire pomper tout le temps. Tu dois contrôler ton rythme cardiaque, apprendre à le baisser, à le monter, à le réguler toi-même, etc. Et c'est vrai qu'en fait, moi, ce traitement a changé ma vie.
Waouh.
Et donc, voilà.
Voilà, c'est un gros combat. Il banalise, voilà, ça y est. C'est le combat d'une vie pour la plupart des gens, ouais. Des fibromyalgies. Un autre combat, 2018, donc un autre combat,
ouais.
C'est celui de la perte de poids.
Ouais.
Et c'est toujours un combat actuellement ?
Alors, ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'en fait, à cause de la maladie au départ, pendant ma vingtaine, j'avais pris énormément de poids. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était enrayé. J'arrivais
pas. Parce que t'étais un bon vivant, parce que tu
faisais
pas attention.
Non, juste parce qu'en fait, à cause de la maladie à l'époque, je ne pouvais pas contrôler en fait mon effort physique. Je pouvais pas en faire autant que d'habitude. Mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure du temps, ça montait. Et j'avais plus l'impression de pouvoir me contrôler. Et je ne savais pas pourquoi. Je pouvais tester plein de petits trucs, ça marchait pas trop. Et donc Weight Watchers m'approche. Je dis oui. Et de nouveau, c'était une bonne pioche.
Et 8 kilos en clair, c'est ça?
Alors,
à peu près
même plus, on est descendu à 12.
Ah 12 oui, kilos 12 kilos ouais. Quand même. Ouais,
j'étais bien monté. Ouais.
Quelle petite chose pourrait aujourd'hui changer ta vie qu'il faudrait que tu implémentes dans ton quotidien personnel ou professionnel que tu aimerais...
C'est intéressant
ouais.
C'est intéressant ça. Depuis que je suis gamin, j'ai une. De par ma façon de faire les choses, j'ai toujours une impression de solitude, de déconnexion. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai toujours eu envie de faire, bah j'ai dû en fait quitter un environnement pour aller me mettre dans un autre environnement. Et donc, j'ai toujours dû aller faire ma place.
Se déraciner finalement à chaque fois.
Exactement.
Ouais.
Et ça, c'est en fait un pattern, c'est un truc qui m'arrive encore aujourd'hui très souvent parce que au départ, j'étais dans le monde du spectacle. Sauf qu'en fait, depuis 2003, je suis dans le monde de la télé. Mais dans le monde de la télé, je suis quand même un mec de spectacle. Et maintenant, dans le monde du spectacle, je suis un mec de télé. Et maintenant, je commence à faire du cinéma, je commence à faire des doublages de dessins animés, etc. Sauf que pour eux, je suis un mec de télé.
Donc, tu as toujours été un petit peu, pas la pièce rapportée, mais un petit peu le gars hors du commun, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et ça se traduit en moi par une impression de ne jamais être complètement connecté, de ne jamais « to never belong ». Et ça, c'est vraiment le truc. Si je pouvais trouver un moyen de le régler, ce serait vraiment le... C'est le truc absolument sur lequel je travaille tout le temps en ce moment. C'est comment me sentir non plus comme toujours l'outsider, mais de me dire je suis là où je dois être.
En sachant que la question, c'est pas le comment.
Ouais.
C'est quoi et vraiment pourquoi.
Ouais.
Donc si tu avais une première idée, c'est vraiment comme ça, ce grenu, ça serait quoi?
De m'isoler. Parce que moi, j'ai tendance, en fait, de par mon travail de metteur en scène, je peux littéralement m'enfermer dans une pièce. Et je vais en ressortir 3 semaines plus tard avec un spectacle complètement créé de A à Z, avec chaque seconde de rempli, sauf qu'en fait, je l'ai créé tout seul, en isolation totale.
Donc là, tu te ressources et là, tu crées.
Et là, je crée, et c'est fabuleux, et c'est là où je me sens bien. Sauf qu'en fait, en faisant ça, le travail ne rayonne pas au-delà et ne connecte pas. Je peux avoir tendance à ne pas permettre aux autres membres de l'équipe d'avoir une impression de connexion avec ce que je suis en train de faire.
Ah, waouh.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est là.
Ça peut être mal pris.
C'est même juste ce côté un petit peu, bon, bah, de toute façon, il va nous le pondre. Et ouais, je vais m'enfermer pendant 3 semaines, 1 mois. Et si c'est un truc plus gros, tu vois, mon livre, je l'ai écrit en 3 mois, tout seul, enfermé. J'ai adoré le faire, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Mais bizarrement, le timide a tout de même besoin de connexion aux autres et au monde. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais régler.
C'est une question de timing aussi, finalement.
Peut-être.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où... il faut choisir le bon timing aussi pour ta psychologie.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais.
Si tu devais recommencer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Parce que ça va rejoindre exactement, je passe par l'autre porte. Ça rejoint le sujet.
Bah, le problème, c'est que si tu me demandes ce que je ferais différemment, je te dirais rien du tout. Je suis très heureux de ma vie, de ma carrière. J'aime ce que j'ai fait, j'aime ce que je fais.
Quelle est la première des choses les plus magnifiques qui pourraient t'arriver les 5 prochaines années ?
J'ai 2 scénarios en écriture, donc que ça aboutisse en film. On commence à me demander de jouer pour d'autres, qu'on me demande par exemple d'animer plus d'émissions. J'ai déjà commencé l'année dernière, mais c'est vrai que j'aimerais animer plus d'émissions. Je me sens bien dans le divertissement. À partir du moment où je fais du bien aux gens, je me sens bien. Et donc le divertissement, c'est quelque chose qui me... Voilà, ça me tient à cœur. C'est pas juste en fait un métier pour moi. Animer du divertissement, c'est presque une mission. C'est la même chose qui m'habite quand je suis sur scène, dans un zénith, dans une aréna. C'est une mission. C'est me dire que voilà, pendant les quelques minutes où je suis en connexion avec le public, je suis en train de leur faire du bien. Ils vont rentrer chez eux, ils vont rentrer un peu plus dynamisés, plus heureux, plus... Voilà.
Oui. Donc, se sont allégés de leurs problèmes.
Exactement.
Et
exactement.
Ça contribue à ce bonheur.
Exactement.
À ces instants-là. Quel est le principal obstacle aujourd'hui dans ta carrière ou dans ta vie privée, selon toi ?
Dans ma vie privée, il n'y en a pas, parce que j'ai de la chance de ce côté-là. Mais je pense que dans ma carrière, peut-être, et ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est peut-être juste un fait. On est en France, et en France, les cases ont l'air importantes. Et par exemple, moi, ce qui a l'air de...
Ce que je ne vois pas en Angleterre.
Bah non,
ouais,
non.
Ouais. Ou en Amérique du Nord.
Mon éducation anglo-saxonne professionnelle ne m'a pas préparé à ça. En Angleterre, c'est vrai que tu as envie d'être metteur en scène un jour, comédien le prochain, chanteur, et tu veux ensuite redevenir auteur.
No,
personne ne te pose la question. C'est zéro souci. Ici, c'est vrai qu'il y a peut-être quand même des cases un petit peu plus présentes. Et je le vois notamment, tu vois, mon image de juge de Danse avec les Stars me colle à la peau, au point où ça fait 15 ans que je ne suis pas chorégraphe, mais il est impossible pour le marché de ne pas me présenter en tant que chorégraphe.
Alors que dans la fonction principale, c'est metteur en scène plutôt.
97% du temps, c'est metteur en scène.
Donc ça fait partie d'un cliché, d'une exception un petit peu française, tu dirais.
Peut-être, ouais.
Ouais.
Et donc on ne va pas la changer forcément d'un jour à l'autre.
Ça te peine, ça te frustre ?
Frustre, de temps en temps, peut-être. Oui. Mais ce qui dérange le plus sur ça, c'est que ça limite le potentiel de pas mal de jeunes artistes. On est dans une époque où il y a vraiment des touches à tout.
Ah, en fait, on bride la créativité, finalement, dans ce pays.
Un petit peu.
Oui.
Un petit peu. On prône tellement le côté artiste et le côté créativité, sauf qu'en réalité, on veut absolument que les gens ne créent que dans un fuseau, que dans un silo, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je trouve ça dommage parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une... Il y a toute une génération qui sont des vrais touche-à-tout, qui sont ultra créatifs et qui peuvent écrire des films, mais qui peuvent également te faire des pubs incroyables et qui peuvent ensuite aller sur scène et te faire du stand-up. Il ne faudrait pas qu'on les limite.
Oh, waouh, ok. Quelle question, Chris, tu aimerais que je te pose ? Parce que la réponse est importante pour toi.
Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ta vie ?
Et donc,
la
réponse
famille.
La famille ? Et pour quelle raison ?
Mais parce qu'en fait, c'est, pour le coup, c'est bien le... Autant ma carrière professionnelle, elle m'est essentielle en termes d'épanouissement créatif, artistique, etc. J'adore ça. Autant il est vrai qu'il n'y a que lorsque je suis avec mon fils de 6 ans, ma femme, avec qui je suis avec depuis presque 27 ans.
27, c'est les noces de quoi, ça, 27 ans ?
Je sais même pas,
mais
parce que
battu.
Je préfère pas les acheter, les cadeaux. Et mes parents, tu vois. Et en fait, il n'y a que à ce moment-là où mon ventre littéralement fait...
Oh, waouh, ok.
Et donc, voilà.
Ouais. À quoi ressemblerait ta vie ? Ça, c'est le truc de Walt Disney, c'est un conte de fées. Tout est au top. Mais top de chez top, tu sais, le truc parfait qui, évidemment, ne s'atteint quasiment jamais. Mais à quoi ressemblerait la vie de Chris au top?
Au top du top?
Top, dans tous les domaines, perso, pro, santé, tout, tout, top, top.
Je réaliserais des films comme si j'étais Tarantino. Non, je vais faire mieux, je vais faire mieux, je vais faire mieux. Et je vais le faire en comparaison totale. Parce que Tarantino ne joue pas dans ses films. C'est un acteur qui n'avait pas vraiment perçu.
Ah donc, le rêve, ça serait un petit peu à la Balboa. Tu écris et tu joues
dedans. Le rêve, c'est Tom Cruise.
Bam!
Okay. Le mec, il revient 40 ans plus tard avec un film qui n'a plus rien à voir avec le Schmilblick. Des avions, il n'y a plus d'avions en l'air qui sont pilotés par des pilotes, mais il fait quand même un milliard avec son film. Improbable. Top Gun 2.
Ça, c'est ton, ça serait bah, top. Ouais,
ce que j'aime, c'est l'environnement créatif. C'est d'être réellement à la fabrication. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'aime. Et pour le coup, c'est vrai que je ne me limite pas. Alors, je parle de film. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est encore l'industrie qui, aujourd'hui, fait rêver. C'est l'industrie dans laquelle, en fait, on peut se permettre, justement, de jouer avec les plus beaux jouets au monde. Avatar, moi, ce qui m'intéresse le plus dans Avatar, ce n'est pas forcément le film final. C'est la façon dont ça a été créé chez... justement Peter Jackson, Weta, où James Cameron s'est éclaté en fait, à utiliser une nouvelle technologie que personne d'autre n'avait utilisée. Moi, c'est ça qui m'éclate en fin de compte, c'est la fabrication. Mmh. Que tu me parles de spectacle, de réalité augmentée, réalité virtuelle, de film, c'est tout ça qui me plaît.
Imaginons beaucoup plus proche dans les 90 prochains jours, tu as levé tous tes obstacles et atteint tous tes objectifs, à quoi ça ressemblerait dans 3 mois?
Dans 3 mois.
Ouais, 90 jours.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Dans 3 mois, bah écoute, grosse annonce de rentrée avec 2 ou 3 primes annoncés que j'anime. Mais également le fait qu'on me propose, tu vois, 1 ou 2 rôles que je tournerai d'ici la fin de l'année et que mon spectacle soit littéralement sold out 8 mois avant d'être en tournée.
Est-ce que tu pourrais dire que ta vie aujourd'hui te correspond parfaitement?
Franchement, ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pense qu'on est à 98% si...
Parce que ce que tu viens de dire, c'est génial parce que... Je vais te dire pourquoi. C'est pour ça que j'ai failli te couper. Non, il ne faut pas le couper. Parce que la plupart des gens ne réalisent pas que dans l'instant, ils vivent la vie qu'ils escomptaient depuis tellement d'années. Et toi, tu restes dans le présent, quoi.
Ouais.
La définition du succès, c'est quoi pour toi?
Ah, bizarrement, pour moi, la définition du succès, c'est surtout... on parle beaucoup du bonheur, mais la plupart du temps, quand tu demandes aux gens ce que c'est le bonheur pour eux... Il te répond complètement à côté.
Puis c'est très flou.
Ouais, parce qu'en fait, ils sont capables de te dire, moi, le bonheur, c'est la famille. C'est quoi les trucs que tu veux réussir à faire dans les 3 semaines qui viennent? Oh, je veux réussir à compléter ce projet, ce projet, ce projet, ce projet. En fait, moi, pour moi, la définition du bonheur, ce qui fonctionne pour moi, c'est de me dire que je m'épanouis professionnellement et que je mets en sécurité ma famille. Basta.
Après cet apéritif, est-ce qu'on est prêt pour faire le dos à dos coaching?
Si tu veux, si tu veux.
Allons-y, let's go. Allez, décollage immédiat, première question. Quel est ton niveau de bonheur en ce moment, moi, où je te parle, pas juste ici durant notre rencontre, mais dans ta vie, 0 étant, j'ai un niveau de bonheur qui est très mauvais, et 10, c'est je suis au top dans ma life.
8 sur 10.
Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour avoir un 10 sur 10 dans les, allez, dans les 60 prochains jours? Je te laisse un peu de marge.
Pour avoir un 10 sur 10, il faudrait que je sois... En fait, les 2 points qui me manquent sont très souvent liés au professionnel pour moi. Parce qu'en fait, la majorité du 8 provient de ma famille et de mon environnement.
Ah, donc, c'est-à-dire?
Bah, c'est... Je vois toujours ce que je devrais faire de mieux professionnellement, les compétences que je dois encore acquérir. Je veux écrire bien mieux. Je veux également être un meilleur soutien pour mes collègues. Ça paraît bête, mais pour moi, c'est important, en fait. On fait des métiers de passion, des métiers sur lesquels on est dans des projets qui sont des espèces de rouleaux compresseurs. Et je veux être la petite lumière sympa qui fait du bien aux gens autour de moi.
Même dans ces enchaînements de projets qui sont des fois rudes, rapides et qui prennent de l'énergie.
Exactement.
Et si tu avais un regret, ce serait quoi?
J'aurais bien aimé que mon grand-père dure un tout petit peu plus longtemps pour voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire plus tard.
Et le regard de ta mère?
Elle est très fière.
Et tu aurais envie de lui dire quoi aujourd'hui alors que peut-être que tu n'as pas osé lui dire?
Moi, j'ai toujours été assez. Pour le coup, j'ai toujours été assez honnête. Donc, je lui ai toujours tout dit à mon grand-père. Mais il y a des choses, il faut les montrer. Et je me rappelle, en fait, un jour, on prend l'antenne sur Danse avec les Stars, la toute première fois. On prend l'antenne. C'est mon premier prime en direct. Il y a le générique de l'émission qui démarre. Et en fait, je me rappelle, mais comme si c'était là maintenant, j'ai eu un tout petit moment. Ça n'a pas duré plus de 5 secondes où je me suis rappelé en fait que mon grand-père, eh ben, en fait, il était mineur dans les mines de charbon en Espagne, dans l'Espagne franquiste. Ils ont quitté ce pays. Il a quitté ce pays pour en fait donner une meilleure vie à sa fille et son fils, qui était donc ma maman. Et mes parents ont travaillé en usine, etc., femme de ménage. Tout ça pour aboutir un jour. Et je suis là, moi, en direct sur TF1. Sur la chaîne que je regardais quand on était gamin, qu'on regardait, où on voyait toutes les méga stars qu'on adorait tant. Donc, j'aurais juste voulu qu'il le voie, ça. J'aurais juste voulu qu'il voie ce moment-là.
Et si tu pouvais lui parler maintenant, tu lui dirais quoi?
Bah, je lui dirais qu'il avait raison. Faut juste être droit et tout va bien se passer. Le karma, pour le coup, c'est la meilleure des religions.
Ta plus grande fierté, ce serait quoi, donc?
Oh, mon fils. Il a 6 ans, c'est le meilleur.
Un don que tu aimerais avoir?
Alors, il faudra le dire à personne, mais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir chanter?
Et l'erreur qui t'a fait le plus grandir jusqu'alors?
L'erreur qui m'a fait le plus grandir, elle va te surprendre. J'ai toujours cru que le travail parle de lui-même. Et ça, c'était vrai il y a 50 ans peut-être. Mais dans notre société aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Il faut savoir faire le travail et il faut savoir communiquer sur le travail.
Donc l'aspect un peu communication marketing, quoi?
Absolument.
Oui, oui. Qu'est-ce que tu te dis le matin en te levant devant le miroir?
Beau gosse.
C'était déjà arrivé avec facilité de te dire je t'aime?
Pas de me le dire à moi, mais de le dire aux gens que j'aime, oui. Moi, j'ai une relation qui est assez sympa avec moi-même. Franchement, je m'aime bien, mais je suis un peu tête à claque aussi. Donc, je suis très conscient en fait de mes... petit exemple tout bête, dans ma famille, on m'appelle un peu cœur de pierre. On m'appelle cœur de pierre. Mon frère, ma sœur, mes parents. Parce que c'est vrai que quand j'ai besoin, quand je dois changer de chapeau, de casquette, je peux me mettre dans la peau de quelqu'un qui littéralement sera complètement froid et va prendre des décisions complètement rationnelles sans se poser d'autres questions.
Donc là, on va sortir de la rationalité. Et imagine, on se projette dans le passé et tu te retrouves en face du petit Chris 10 ans en culotte courte. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui à ce petit Chris de 10 ans?
La première chose que je lui dirais, c'est de moins s'inquiéter. De beaucoup, 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 beaucoup moins s'inquiéter.
S'inquiéter de?
Tout.
De tout?
De tout. De tout, 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 tout. J'étais un inquiet. Et la réalité, c'est qu'en fait, le monde avance que tu sois inquiet ou pas. Donc, de toute façon, des choses vont se passer.
Waouh, c'est tellement vrai. Rapidement, tac au tac, la vie c'est?
Le bonheur.
Les gens sont?
Fous.
À celles et ceux qui ont un coup de mou, un creux de vague, une difficulté, une douleur en ce moment, une incapacité totale à croire en eux, dans leur projet, dans leur rêve, tu leur dirais quoi?
La réalité c'est qu'en fait tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez maintenant, c'est issu de vos pensées, de ce que vous pensez, de ce qui est dans votre tête à cet instant T. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que vous pensez. Et par définition, vous pouvez penser à autre chose. Donc, permettez-vous de penser à autre chose. Permettez-vous de penser à demain. Permettez-vous de penser à des belles choses. Permettez-vous de penser à ce qui va peut-être vous faire du bien. Parce que de toute façon, vous vous sentez comme vous vous sentez. Il n'y a aucun besoin d'enfoncer le clou.
Donc, oser être audacieux et ne plus avoir peur de voir grand.
C'est vachement mieux dit quand c'est Franck Nicolas.
Chris, merci pour cette rencontre inspirante.
Un grand merci à toi.
À bientôt, bye-bye.
Un vrai plaisir.
Voilà, j'espère que ce nouveau temps fort t'a gorgé d'énergie et d'idées, et pour t'aider à atteindre tes objectifs, eh bien j'ai un livret digital que je souhaite t'offrir aujourd'hui. On l'a intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois » et tu vas découvrir comment apprendre à rebondir après une forte déception et surtout un coup dur dans ta carrière, tes affaires, et je vais te dévoiler concrètement comment on va pouvoir miser sur nos talents pour être plus efficace et comment surpasser surtout la peur de l'échec qui nous freine en permanence. Donc, bonne nouvelle, une nouvelle fois, ce livret stratégique est disponible maintenant et nous te l'offrons. Pour l'obtenir, c'est très simple, clique sur le lien. Bonne réussite.